RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage en Indonésie. Aujourd'hui, quatrième état le plus peuplé au monde et premier pays à majorité musulmane. 192 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi. Pas moins de 5 scrutins sont organisés en parallèle pour près de 250 000 candidats répartis de l'échelon local jusqu'au plan national, des conseils de quartier au parlement de l'archipel. Mais seuls 2 hommes sont dans la lumière de l'élection présidentielle. Joko Widodo, le président indonésien sortant, et Prabowo Subianto, son unique adversaire. Une affiche électorale identique à celle d'il y a 5 ans et pour laquelle les sondages laissent supposer un résultat similaire. Dans un archipel en mouvement, ce scrutin semble en tout cas une nouvelle illustration de la poussée progressive des radicaux religieux. Présidentiel en Indonésie, le cavalier et l'homme à la moto. Grand reportage, signé Joël Bronner.
Je ne suis pas le genre d'électrice qui change constamment d'avis. Je me suis forgé une opinion il y a 5 ans et aujourd'hui, cette opinion reste la même. Je sais donc pour qui je vais voter et ce sera pour l'actuel président Joko Widodo.
Face au même choix électoral que lors de la présidentielle précédente, Fiona Dila ne tergiverse pas. À l'entrée du métro flambant neuf de la capitale indonésienne, cet employé de banque de 30 ans est aux anges. L'arrivée en mars des 13 stations de ce métro lui épargne 2 heures de transport quotidien. Elle en attribue le mérite au président sortant, les travaux ayant débuté en 2013, alors que Joko Widodo était encore gouverneur de Jakarta.
For his first period, for the last 5 years, I can see his results.
Au cours de son premier mandat, ces 5 dernières années, j'ai pu observer les résultats de sa politique. Par exemple, l'arrivée de ce métro. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ses succès dans la lutte contre la corruption. Pardon de l'exprimer comme ça, mais lui et son équipe ne nous racontent pas de conneries. En clair, il n'est pas du genre à faire des promesses en l'air. Et en plus, il est extrêmement humble. C'est très important pour moi, cette humilité dont il fait preuve. Sincèrement, c'est vraiment l'aspect qui me séduit le plus chez lui.
Élégante, coquette et souriante, cette banquière fière d'emprunter un métro tout neuf porte à la main une poignée de sacs de vêtements de marque. La trentenaire est l'une de ces incarnations urbaines d'une Indonésie qui poursuit son développement, en particulier via la consommation. À l'image des malls omniprésents, ces centres commerciaux climatisés qui ont poussé dans la capitale comme des champignons et qui servent souvent de point de repère aux habitants de la forêt urbaine. Dans les rues de Jakarta aussi, on achète et puis on vend. Tous les dimanches, l'ancienne Batavia, qui revêt souvent des aires de parking à ciel ouvert, en raison de la faiblesse des transports publics comparée au nombre de voitures individuelles, se dénude partiellement de son trafic. De 6h du matin à 11h, une demi-journée hebdomadaire sans voiture aide certains gros axes de la capitale à respirer. Carrioles et petits vendeurs pullulent ainsi sur ce trajet, proposant notamment aux passants nourriture, rafraîchissements et vêtements. Aris, 31 ans, qui, comme de nombreux Indonésiens, n'a pas de patronyme, assiste au quotidien le gérant d'une petite boutique. Mais le dimanche, pour arrondir ses fins de mois, il vend de l'eau et des bouteilles de boissons sucrées sur la Jalan Sudirman, grosse artère offerte durant quelques heures aux piétons.
J'ai l'intention de voter pour le candidat qui porte le numéro 2, c'est-à-dire Prabowo Subianto. J'aime sa manière de s'exprimer. À mon avis, nous devrions lui laisser une chance. Je pense qu'il peut être le meilleur pour diriger l'Indonésie. Les deux candidats ont des tempéraments très différents. Prabowo, lui, a un caractère fort. C'est un ancien militaire et s'il a le pouvoir, il se comportera en militaire. Ce n'est pas que je pense que le président sortant soit mauvais, mais plutôt que nous devrions laisser une chance à Prabowo. Par ailleurs, moi, je suis musulman et en tant que musulman, les prêches que j'entends sont favorables à M. Prabowo, alors que M. Jokowi, lui, ne reçoit pas le même type de soutien.
C'est pourtant bien Joko Widodo, surnommé Jokowi, qui depuis le départ fait la course en tête dans les sondages. Fin mars, 4 études d'opinion différentes le créditaient encore de 13 à 20 points d'avance sur son adversaire. D'origine modeste, le président jouit en effet d'une image positive auprès d'une majorité de l'électorat populaire. Et pas que dans la capitale. À quelques 8 heures de train de là, Thomas Widiono, 51 ans, enseigne la langue indonésienne dans la ville de Yogyakarta. Pour lui, la candidature du président sortant est la plus solide.
Joko Widodo est actuellement au pouvoir, c'est lui le président en exercice. Ses propositions sont donc évidemment plus concrètes que celles de son adversaire Prabowo Subianto. Il ne faut pas oublier que cela fait près de 5 ans que Joko Widodo est président. Ce n'est donc pas une surprise que son programme soit plus détaillé. Son rival, lui, essaye surtout de débusquer les faiblesses du président sortant et de s'appuyer dessus pour l'emporter. Ce qui fait que le programme actuel de Prabowo est avant tout un discours et rien ne prouve qu'il compterait réellement appliquer ce discours en cas de victoire.
À ne se fier qu'au sondage, la partie semble gagner d'avance pour Joko Widodo, qui serait sur le point d'amorcer un second mandat. Mais regardez de plus près, la société indonésienne semble profondément divisée. Face à elle, le style des deux candidats à la présidence se situe en effet aux antipodes l'un de l'autre et donne à voir de manière diamétralement opposée de mettre l'archipel en mouvement. Au hennissement d'un camp, répondent les pétarades de l'autre. À première vue, Prabowo Subianto, le challenger, souvent simplement désigné comme Prabowo, est un ancien général qui paraît incarner le monde d'hier, tant son nom est associé au dirigeant autoritaire Suharto. Connu pour disposer d'une fortune importante, ce représentant d'un nationalisme exacerbé aime parader à cheval. Rien de plus facile que de trouver des vidéos de l'homme paré d'un certain embonpoint et coiffé d'un chapeau javanais, menant des revues de troupes symboliques, fièrement juchées sur son destrier.
Prabowo Sandi, pilihan kita semua. Ayo kita pilih yang nomor dua.
Celui qui a bénéficié d'une carrière éclair au sein de l'armée après avoir épousé l'une des filles de Suharto en est à sa 3e campagne présidentielle. Il a déjà échoué à 2 reprises, d'abord en 2009 comme candidat à la vice-présidence, puis en 2014 face déjà à Joko Widodo qui avait remporté 53% des suffrages. Le nom du cavalier est également mêlé à des accusations d'exaction, en particulier au Timor oriental, alors qu'il était commandant des forces spéciales indonésiennes dans les années 90. Face à lui, Jokowi, le néolibéral, a beau jeu de symboliser un monde plus moderne. Sa monture à lui serait plutôt la moto, à l'image des hordes de cyclomoteurs qui peuplent rues et ruelles des grandes villes indonésiennes. Avec l'aide d'une doublure, l'actuel président avait ainsi mis en scène son entrée sportive et remarquée comme motard lors de la cérémonie d'inauguration des Jeux asiatiques à Jakarta l'été dernier. D'extraction modeste et d'un charisme en apparence limité, celui qui a été maire de la ville javanaise de Solo, puis gouverneur de la capitale, a su faire d'un style politique simple et proche du peuple son image de marque. La lutte contre les inégalités et le développement de projets d'infrastructure sont au cœur de son projet. S'il y a un événement qui a en partie changé le paysage politique du pays depuis la présidentielle précédente entre les deux hommes, ce sont en 2016 les manifestations anti-Ahok, du surnom de l'ex-gouverneur de Jakarta. Des manifestations géantes portées par les musulmans radicaux au cœur du premier pays à majorité musulmane au monde, qui ont conduit à un procès puis à son emprisonnement durant 2 ans jusqu'en janvier dernier. Eka Kurniawan est un écrivain indonésien, il a notamment publié L'Homme Tigre. Au mois de février, l'auteur a signé une tribune politique dans le New York Times, dont voici une traduction.
La polarisation de la société indonésienne a été accentuée depuis la campagne pour l'élection du gouverneur de Jakarta il y a 2 ans. L'actuel président a soutenu Basuki Cahaya Purnama, dit Ahok. De descendance chinoise et chrétienne, Ahok est devenu la cible facile d'une campagne basée sur les différences ethniques et religieuses. Ahok n'a pas simplement été battu lors de cette élection, les soutiens de son rival ont aussi réussi à l'envoyer en prison, au motif de blasphème à l'encontre de l'islam. A l'évidence, M. Prabowo et le reste de l'opposition ont beaucoup appris de la chute d'Ahok. En 2014, ils avaient mené une campagne présidentielle démodée sur la résurgence supposée du communisme. Et ils avaient échoué. L'élection de Jakarta leur a appris que l'exploitation de valeurs islamiques est une manière efficace de galvaniser le soutien populaire.
L'archipel indonésien compte près de 90% de fidèles de l'islam parmi ses quelques 265 millions d'habitants. La Nahdlatul Ulama, ou la NU en abrégé, y est la plus large organisation islamique et Elmi Faisal Zaini est son secrétaire général. Pour se rendre en soirée au domicile de celui qui est aussi un ancien ministre du développement, il faut d'abord se perdre dans les ruelles gorgées d'enfants d'un quartier résidentiel du sud de Jakarta.
Jadi, En Indonésie, l'identité religieuse est une variable politique qui se renforce à l'heure actuelle. Ce mouvement s'est encore accentué après l'élection de Jakarta et l'affaire Awok. Depuis cet événement, l'identité religieuse est de plus en plus utilisée comme un ressort politique. Je pense qu'il y a eu une mauvaise gestion de la part du président Jokowi dans l'affaire Awok. Selon moi, il a trop attendu pour prendre le problème à bras-le-corps, au départ de la contestation. Ensuite, la situation est devenue hors de contrôle et elle lui a donc échappé. Cela a créé un mouvement de cristallisation de l'identité religieuse musulmane autour de l'affaire Awok et cela a aussi engendré un sentiment d'opposition au président lui-même qui découle directement de cette même affaire. Les gens pensent en effet que Jokowi a protégé Awok. Tout cela a aussi participé de la montée d'un sentiment anti-étranger et particulièrement anti-chinois et provoqué une poussée d'intolérance en Indonésie.
Pour le secrétaire général de l'ANU, aucun doute, la question de l'islam est bien la clé pour remporter cette élection indonésienne. Awok était le bras droit de Jokowi lorsque ce dernier était gouverneur de Jakarta, d'où l'instrumentalisation de cette affaire par les adversaires politiques du président. Des adversaires qui se sont ralliés d'un bloc à Prabowo, son seul opposant, même si celui-ci n'est pas particulièrement connu au départ pour sa piété. De son côté, afin de se protéger de leurs attaques insistantes sur sa prétendue tiédeur religieuse, Joko Widodo s'est allié pour ce scrutin avec Maruf Amin, 76 ans, qui a dirigé l'organisation islamique NU de 2015 à 2018.
Nous ne considérons pas la présence électorale de Maruf Amin comme une victoire pour notre organisation. Nous comprenons bien que Maruf Amin doit sa place sur le ticket avec Jokowi en tant que vice-président parce que le président sortant doit contrer un mouvement d'intolérance religieuse et que Maruf Amin est capable de discuter avec l'ensemble des communautés.
D'un point de vue occidental, difficile de ne pas voir une certaine radicalité dans le profil très conservateur de Maruf Amin, lui qui dirige le Conseil indonésien des oulémas, un organe dont l'une des fonctions principales est de produire des fatwas. En Indonésie, cette vision n'est pourtant pas majoritaire. Aux yeux du secrétaire général de l'ANU, par exemple, les radicaux sont ceux qui prônent l'instauration d'un califat indonésien autour d'une religion unique et qui souhaitent mettre en place une loi exclusivement fondée sur les textes religieux. Les autres, dont Maruf Amin, qui fait campagne aux côtés du président sortant, sont donc souvent considérés comme des modérés.
Également, ces élections qui s'avancent à grands pas, qui ont été marquées par les poussées d'une certaine forme de conservatisme activiste.
Gabriel Fakal, chercheur attaché à l'Institut de recherche asiatique, est de passage à Jakarta pour la sortie d'un livre collectif consacré à l'Asie du Sud-Est en 2019. Il rappelle que pour pouvoir gouverner, Joko Widodo a déjà dû conclure de multiples accords au cours de son premier mandat, avant cette nouvelle alliance avec un islam conservateur.
Joko Widodo a eu un peu de mal à amorcer son programme du fait qu'il n'avait pas de majorité au Parlement, qui était peu soutenu par son parti, et que de ce fait il a dû mener un ensemble d'alliances, dont certaines l'ont amené à avoir des obligations, notamment vis-à-vis de personnalités au sein de l'armée, des services de renseignement, et puis plus récemment, notamment du fait qu'il a choisi comme colistier Maruf Amin, qui est donc un islamiste conservateur, qui avait été le premier d'ailleurs à nuire à Joko Widodo indirectement, puisqu'il avait contribué à la campagne anti-blasphématoire contre l'ancien gouverneur de Jakarta, Basuki Cahayapurnama, qui a finalement été emprisonné, notamment suite à cette mobilisation en 2016-2017. Donc voilà, c'est notamment à cause de tous ces compromis qui vont peut-être handicaper Joko Widodo lors de son prochain mandat, qui vont devoir en tout cas l'amener à effectuer un ensemble de choix par rapport à l'armée, au budget qu'il va lui attribuer, à l'importance politique qu'il va lui accorder, et puis vis-à-vis de l'islam conservateur également. Ce colistier peut s'avérer être un choix un peu périlleux.
Même s'il est donné favori, il est encore trop tôt pour parler du prochain mandat de Joko Widodo. Mais ces différentes alliances soulignent, s'il est réélu, le travail d'équilibriste politique auquel il devra s'employer. Un travail auquel le président sortant se serait déjà attaché ces dernières années, en tâchant notamment de morceler l'opposition.
Il a une stratégie finalement d'éparpillement de l'opposition et puis de multiplication de ces alliances pour essayer finalement de créer différents types de contrepoids. Donc l'un des leviers apparemment qui est en train de se préciser pour gagner des voix lors des prochaines élections et puis aussi pour s'attacher différents obligés, eh bien c'est le levier régionaliste. Donc il va justement faire différentes formes d'alliances avec des représentants politiques locaux, régionaux, et notamment avec les associations régionalistes, avec des communautés locales qui promeuvent une idéologie régionaliste encore. Donc voilà, ça c'est un levier effectivement qui fait partie de la trinité du pouvoir en Indonésie, donc l'islam, le militaire et puis le régionaliste, qu'on avait vu en force au moment de la réforme indonésienne au tout début, entre 1998 et 2002 notamment. J'ai l'impression qu'on revient finalement à ce type de phénomène récemment.
La réformatie correspond à la période de transition entre le régime autoritaire de Suharto et la démocratie. Pour de nombreux Indonésiens, le candidat Prabowo, ancien gendre du dictateur déchu, évoque un retour en direction de l'autoritarisme. Reza Afisina appartient à Ruang Rupa, un groupe d'artistes indonésiens. Il conserve de la réformatie le souvenir d'une sorte de fête collective.
Avant 2000, dans les années 1990, lorsque j'étais encore étudiant en art, les mentalités étaient différentes. Dans nos rêves, devenir artiste signifiait par exemple pouvoir disposer d'un studio personnel et y travailler par nous-mêmes. À l'époque, nous n'avions pas d'autre idée car nous vivions une période répressive, celle du régime de Suharto et de l'ordre nouveau. À sa chute, en revanche, à partir de 1998 et pendant les 2 ans qui ont suivi, l'époque a été euphorique. Une émulation collective est née et il est soudainement devenu possible de collaborer avec d'autres artistes. Tout cela a représenté un enrichissement énorme pour la scène créative indonésienne, en particulier à Jakarta.
Les artistes indonésiens ne sont pas les seuls à avoir bénéficié du vent de liberté offert par la chute de Suharto il y a près de 20 ans. La parole des radicaux religieux, elle aussi, a été libérée. Andreas Arsenault représente l'ONG Human Rights Watch à Jakarta.
La radicalisation de l'islam en Indonésie est évidemment un problème complexe qui implique de nombreux facteurs. Et il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau. Bien entendu, il y a eu des développements récents, à commencer par le plus important d'entre eux, la chute de Suharto. Et ce, parce que Suharto, ainsi que Soekarno, son prédécesseur, étaient tous les deux des dirigeants autoritaires qui ont persécuté les islamistes. La chute de Suharto a ainsi libéré des espaces démocratiques. Par le passé, les organisations islamistes n'avaient pas d'espace pour propager leur enseignement et leur interprétation de l'islam. À partir de là, ils l'ont eu.
Et le chercheur de souligner le poids des moyens de communication modernes dans la diffusion de messages hier encore marginaux.
Last but not the least, and I think it is a very important factor, the internet, social media.
Internet et les réseaux sociaux sont aussi un autre facteur très important à mes yeux. Il y a 20 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas. Maintenant, nous avons accès à Twitter, Facebook, Instagram, etc. L'Indonésie se retrouve noyée sous des torrents d'informations, dont beaucoup sont truffés de mensonges, de discours de haine ou encore d'interprétations étroites de l'islam. J'éprouve une admiration sincère pour de nombreux enseignements classiques de l'islam. Mais je suis vraiment choqué dans le même temps de voir le flot d'interprétations simplistes des textes religieux qui se déversent à l'heure actuelle en Indonésie.
Déversement de messages intolérants, fausses informations en cascade, à en croire les égouts du web, le favori Joko Widodo est communiste. Il serait sur le point de légaliser le mariage homosexuel ou de vendre l'Indonésie à la Chine. Autant de points susceptibles de faire réagir défavorablement de nombreux électeurs de l'archipel. Son adversaire, Prabowo Subianto, serait lui hostile au Pancasila, principe fondateur de l'État indonésien, notamment censé garantir la liberté religieuse. Tandis que se répandent certaines de ses billevesées, les questions écologiques liées au réchauffement climatique, elles, ne sont traitées qu'à la marge par les deux candidats. Le hennissement politique des chevaux et le vrombissement électoral des motos couvrent le bruit de l'océan, dont la montée des eaux annoncée a pourtant peu de chances d'épargner le plus grand archipel du monde. À commencer par sa capitale Jakarta, dont près de la moitié de la superficie se situe sous le niveau de la mer. Présidentielle en Indonésie, Le cavalier et l'homme à la moto, un grand reportage de Joël Bronner, réalisation Pierre Chavangeon.